Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107 FM.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Alors on va commencer cette émission par maintenant une petite annonce qui va devenir récurrente. On va vous parler donc de la fête de la forêt qui aura lieu le 12 et 13 mai prochain à Florac et à Bar des Cévennes. Et dans ce cadre-là, on vient de lancer un concours photo sur la thématique forêt et bois des Causses des Cévennes et des Garrigues. Donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur notre site forêtcaussescévennes.fr. Donc aujourd'hui, Virginie, bonjour.
Bonjour Margot, bonjour à
toutes. Bonjour Émeric.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Alors, on va rejoindre les Pyrénées pour aller à la rencontre de François Sassu, qui est directeur d'agence RTM des Pyrénées. Alors RTM, qu'est-ce que ça signifie? Restauration de terrain de montagne. Et donc, il va nous expliquer justement qu'est-ce que c'est que cette démarche. Donc, on vous propose de le rejoindre. Bonjour Monsieur Sassu.
Oui, bonjour. Bonjour à vous tous.
Alors, quel métier exercez-vous?
Alors voilà, moi je travaille à l'Office national des forêts. Je suis directeur de l'agence de restauration des terrains en montagne, voilà, qui est une structure, une petite structure de 26 personnes réparties sur la chaîne des Pyrénées. Voilà, alors on a des missions qui nous sont confiées par l'État, pour déjà garder à mémoire ce que sont les risques naturels en montagne. C'est vrai que le terme restauration des terrains en montagne n'est pas forcément immédiat, mais le sujet pour nous, c'est la gestion des risques naturels en montagne. Mmh. Voilà, prévenir, gérer des ouvrages, appuyer les territoires. Et moi, je suis basé à Saint-Gaudens et on a des implantations à Tarbes, Saint-Gaudens, Foix et Perpignan.
D'accord. Voilà. Quand vous parlez de risques en milieu montagneux, on pense aux chutes de pierres, à l'avalanche, qu'est-ce que ça peut être d'autre?
C'est ça, on dit que ce sont des phénomènes gravitaires, quoi, générés par la gravité. Alors il y avait à l'origine l'eau, enfin l'eau et tous les sujets de crues torrentielles, mais il y a aussi les avalanches, les chutes de blocs, les glissements de terrain. Voilà, on ne travaille pas sur les séismes, c'est un autre sujet. Mais ce sont effectivement pour nous ce qu'on appelle les risques naturels en montagne. Ouais.
Et du coup, vous avez dit que la politique restauration de terrain de montagne, RTM, est ancienne. Et quand est-ce qu'elle a été mise en place et en fait pourquoi?
Alors, oui, effectivement, c'est une très vieille histoire. Alors, ça a été initié au 19e siècle, principalement avec un changement important sur le milieu montagnard. Donc on venait de territoires naturels assez boisés. Et à cette époque-là, les montagnes sont très peuplées. Au 19e, il y a un usage de bois, un besoin de bois pour se chauffer et construire, un besoin de terrain pour l'agriculture, le pastoralisme. Et tout ça a progressivement généré une très forte pression sur le milieu et beaucoup de dégâts donc liés au défrichement, au pâturage excessif. Beaucoup de désordres, de crues torrentielles, d'avalanches. Voilà, il faut voir les photos de l'époque, les montagnes sont quasiment lunaires, quoi. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus du tout le même, c'est pas du tout le même milieu. Mm-hmm. Donc il y a eu, si on lit une politique, ça a été initié par l'État, qui sur un diagnostic que les désordres étaient liés à cette pression sur le milieu, a s'est donné comme objectif de revenir à l'état intérieur, là, ce qu'on appelle la restauration des terrains de montagne, pour notamment restaurer les fonctions de protection de la forêt. C'était une politique très volontariste qui a commencé par une première loi en 1860 sur un objectif de reboisement à grande échelle et bon, un certain nombre de difficultés, notamment sociales, pour arriver à quelque part à prendre des terrains qui étaient utilisés par les populations montagnardes avec des besoins assez essentiels, se nourrir, se chauffer, subvenir à leurs besoins. Et puis une deuxième loi, RTM, en 1882, qui était plus liée sur, on identifiait les endroits où les dangers naissaient, étaient vraiment actuels, et essayer de restaurer de façon un peu plus chirurgicale les endroits où il y avait de l'érosion vive, des couloirs d'avalanche dénudés. Voilà, et ça s'est traduit par des déclarations d'utilité publique pour identifier les travaux, les faire, et puis exproprier et indemniser aussi les propriétaires des terrains, voilà, avec un certain nombre de difficultés ou d'oppositions politiques sur certains territoires qui ont été assez fortes. Voilà.
Alors, si on parle aujourd'hui de RTM dans Palabre en forêt, c'est qu'en fait, dans les Cévennes, on a aussi des peuplements issus des boisements de restauration de terrains de montagne. Donc, on pense souvent au massif de l'Aigoual qui a été fortement reboisé. Mais il me semble, Virginie, que c'est pas le seul massif qui a été reboisé dans ce cadre-là.
Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie la politique RTM, finalement, de l'histoire des Cévennes aussi. Et donc, on a bien connu le travail notamment du célèbre forestier Georges Fabre dans l'Aigoual, comme tu l'as rappelé. Et il faut savoir que ce célèbre forestier a aussi sévi dans nos petites Cévennes côté gardoise. Et par exemple, toutes les forêts domaniales qu'on a aujourd'hui sur notre secteur de la charte forestière pays Cévennes, hormis celle du Rouvergue, qui est issue des terrains miniers, mais les quatre forêts domaniales, donc Malmonté, Masse de l'Air, Aumol et la dernière dont j'ai oublié, a été créé à l'occasion de cette politique RTM.
Est-ce que, du coup, vous pourriez nous donner deux, trois exemples de projets concrets qui sont en cours ou qui sont terminés il y a peu sur votre territoire des Pyrénées ?
Oui. Alors, on a annuellement beaucoup de travaux. Et, alors, juste pour en citer quelques-uns, actuellement... On a un projet sur le Canigou de confortement d'une correction torrentielle. Alors ce qu'on appelle une correction torrentielle, il faut visualiser des barrages installés dans des torrents de forte pente. Hein. Des barrages derrière où il n'y a pas d'eau, qui sont atterrés, dont l'objectif est de caler le profil en long du torrent pour éviter qu'il s'enfonce. En s'enfonçant, qu'il entraîne les berges, qui génère de l'érosion. Donc on a actuellement des projets dans le Canigou de confortement d'une correction torrentielle significative qui avait été mise en place d'ailleurs après les crues de 40, les très fortes crues dans les Pyrénées orientales. Moi, je pense aussi sur une autre thématique à Barèges dans les Hautes-Pyrénées où on construit un refuge de montagne pour les ouvriers qui rénovent des dispositifs par avalanche assez inédits en France voire en Europe qui avait été mis en place par toujours pareil au 19e, puis après par le génie militaire pour protéger le village de Barège contre les avalanches. Et puis on a aussi, alors sur notre thématique, la Foix, pour la commune de Foix, la mise en place de protection contre les chutes de blocs au niveau de la ville, juste au-dessus de la ville. Voilà. Bon, c'est pour illustrer, on a usuellement, et tous les ans, on fait un nombre de projets assez concrets, des travaux dans des conditions de montagne. Donc, pas toujours très simple à mettre en place.
Et du coup là, si on comprend bien, c'est plutôt des travaux, je sais pas si le terme va être bon, mais de génie civil, où on va utiliser plutôt le béton pour essayer notamment de canaliser, c'est pas le mot, mais les torrents, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore des plantations qui sont réalisées dans le cadre de RTM?
Alors on a fait moins, c'est vrai que l'histoire a commencé par du reboisement, c'est que quand c'est confié à l'administration des eaux et forêts, l'idée c'est de reboiser. Et globalement, ça a bien marché. Ça a été une très grande réussite finalement, notamment au Massif Central, il y a énormément de surface RTM, il y en a beaucoup dans les Alpes du Sud, un peu moins dans les Alpes du Nord et les Pyrénées. Mais et la forêt qui a été installée, en fait, aujourd'hui, elle est gérée, elle est dans le régime général de la gestion forestière, avec un objectif de maintien du couvert boisé. Des conditions plus ou moins variables, c'est-à-dire que très généralement, c'est des forêts pas exploitées, déjà qui ne poussent pas très vite. Hein. Et il y en a quelques-unes qui peuvent être exploitées, mais l'objectif de maintenir le couvert boisé est géré dans le cadre d'une gestion classique forestière. Il arrive sur certains endroits, mais c'est assez marginal finalement aujourd'hui, qu'on continue à reboiser. Mais globalement, ce qui était boisable a été boisé. Et aujourd'hui, il ne reste que les terrains où les éléments naturels, l'érosion, les pentes, rendent très difficile l'installation de forêt.
Oui, merci. Effectivement, c'est vrai que sur notre secteur, les boisements dont vous parlez là, par rapport aux crues ont bien quand même fonctionné. Parce que même si aujourd'hui, par exemple, en Cévennes, à chaque épisode cévenol, on voit qu'il y a des crues importantes, c'est vrai que sans ces boisements en amont, ça pourrait être pire. Et on retrouve des textes justement qui parlent des énormes inondations qu'il y avait du côté d'Anduze, enfin dans les vallées cévenoles, quoi. Et donc, oui, ça a fonctionné.
Une très belle réussite, ouais.
On vous propose une petite pause musicale avec le titre « Je suis la montagne » de Modoïd.
Revoici sur Radio Barta 107FM dans l'émission Palabre en forêt en compagnie de François Sassu, directeur d'agence restauration terrain de montagne des Pyrénées à l'Office national des forêts. Alors, monsieur Sassu, vous nous avez parlé tout à l'heure des difficultés quand même des chantiers, des projets restauration de terrain de montagne. Est-ce que pour vous, enfin voilà, dans votre carrière, est-ce que vous avez vu des projets moins réussis et est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous rencontrez fréquemment pour monter ces projets?
Oui, alors en général, c'est plutôt le terme de limite ou avec le réussite. C'est vrai qu'il y a des, en montant des événements d'une telle force, des fois qu'on ne peut rien faire. Alors, il y a un certain nombre de grandes catastrophes, mais enfin, moi j'ai en mémoire déjà les crues de 2013 dans les Pyrénées, qui étaient des crues d'une période de retour qualifiée centennale, qui étaient encore dans la mémoire de quelques personnes, mais on avait en fait finalement perdu la mesure, quoi. Voilà. Dans ce type d'événement, en fait, on mesure à quel point des fois la nature est puissante, quoi. Enfin, et là, en l'occurrence, violente, on va dire. Voilà, donc c'est ce type d'événement. Je pense aussi il y a actuellement un cours en glissement à Villa dans les Hautes-Pyrénées, qui sont des glissements d'ampleur, quoi, ceux un peu extrêmes, sur lesquels, malgré des ouvrages, des protections, voilà, des choses qui ont été mises en place, il est difficile de lutter, quoi. Donc on est plutôt dans la gestion d'événements qui dépassent en fait nos limites de travaux, de prévention, qu'on ne peut pas arrêter. Voilà.
Et est-ce que vous avez du coup, à l'inverse, un exemple de chantier qui vous semble particulièrement réussi ?
Oui, alors, il y a, j'en ai cité tout à l'heure là sur effectivement le foie, enfin les protections de chute de bloc, par exemple sur la commune de Foix ou d'Avalanche, mais finalement moi ce que je trouve une grande réussite, on en a parlé tout à l'heure, c'est le reboisement en fait. Par rapport à l'état du 19e siècle où le territoire de montagne était très déboisé, la mise en place de la forêt a été une vraie réussite, quoi. Pourquoi une réussite ? Parce que c'est quelque chose qui a été mis à grande échelle. C'était par rapport aux moyens qu'on peut mettre aujourd'hui localement sur des sites. C'était une réussite à grande échelle, quoi. Elle a été faite sur tous les massifs de montagne de façon, voilà, avec un gain environnemental assez significatif, hein, c'est plus du tout le même milieu naturel aujourd'hui. Et puis une stabilité, une résilience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la forêt, même si localement, après une tempête ou un coup de vent, des chablis ou des phénomènes extrêmes, elle peut être affectée, elle a une capacité aujourd'hui, puisqu'elle est installée, à s'auto-régénérer, donc... Par rapport aux efforts que l'on fait aujourd'hui pour gérer les sites les plus extrêmes avec des moyens, beaucoup de génie civil, il y a vraiment une efficacité de la forêt, hein, pour assurer et maintenir un rôle de protection naturelle. Alors après, on en connaît les limites. Tout à l'heure, on a parlé des grands crus. Aujourd'hui, on sait que même dans des territoires très boisés, sur les très fortes précipitations, les phénomènes extrêmes, la forêt aura des limites, mais elle réduit quand même au quotidien ce qui était les désordres courants à l'époque. Et elle améliore aussi notablement l'environnement montagnard. Ouais.
Et...
Je donnerai la prime à la forêt, pour le coup. Ouais.
Oui. Et du coup, pour vous, aujourd'hui, actuellement, quels sont les enjeux, justement, pour la politique restauration de terrain de montagne et où ceux à venir ?
Dans les enjeux, il y en a un, bon, qui est déjà à l'œuvre, c'est de maintenir la prévention. C'est-à-dire qu'on a connu notamment dans les années 70 des phases de développement ou d'urbanisation qui étaient peut-être pas suffisamment soucieuses, quoi, de la prévention des risques. Donc ça, c'est un élément important, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut toujours rester prudent, être conscient en fait de l'exposition qui restera toujours, hein, de l'implantation humaine dans ces milieux-là. Et puis il y a un autre élément aussi qui est peut-être à restaurer, c'est la culture du risque. Hein. Les territoires de montagne, les anciens en fait connaissaient leur milieu, les risques. Voilà, aujourd'hui il y a un regain d'intérêt, hein, pour vivre en montagne avec des populations qui sont moins habituées. Donc ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui de reconstruire peut-être une culture du risque, une connaissance en fait. Après, à très long terme, il y a effectivement, de manière incontournable, les questions du changement climatique. Hein. C'est-à-dire que même si on ne sait pas tout, enfin, on sait que les avalanches, l'enneigement globalement va diminuer. Même si on pense que les avalanches vont diminuer, on n'est même pas sûr de ne pas encore être confronté à des problématiques d'avalanches. Après, on sait que sur les phénomènes torrentiels, il peut y avoir des effets de seuil qu'on a peu connus, qu'on connaît peu, donc ça c'est une vigilance pour nous, de la même façon que l'impact qu'il y aura sur la forêt qui protège en fait les hommes, voilà. Comment est-ce que la forêt sera impactée, comment son rôle sera affecté. Ça, c'est des enjeux de long terme sur lesquels on est plutôt aujourd'hui en phase d'observation, pour essayer de bien comprendre, être vigilant, avoir voilà, d'anticipation quand on pense qu'il y a des choses qui évoluent et qu'on peut agir dessus.
Merci pour tous ces éléments sur la thématique des RTM. Pour finir, je vais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. C'est un peu une dernière note personnelle. Est-ce que vous auriez un petit mot forestier à ajouter ?
Alors, du point de vue de la femme, même si c'est aujourd'hui, c'est pas mon quotidien de travail, puisque on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de problématiques, travaux, initiés. Moi, je reste admiratif en fait de ce qu'ont fait les forestiers, enfin, de leur intuition, leur persévérance et l'ambition de nos prédécesseurs là, qui ont reboisé les montagnes avec des défis techniques, humains, sociaux. Et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, en fait, ça a été une très grande réussite. Donc, voilà, des fois, quand on est dans l'action, on est toujours inspiré par ce qu'avaient fait les forestiers à l'époque. Voilà, ils n'avaient pas eu peur de s'attaquer à ça. Et ils y sont arrivés, donc encore chapeau à eux.
Merci François Sassu, merci d'avoir partagé avec nous toute cette histoire et ces explications. Au revoir.
Merci d'avoir donné l'occasion de témoigner de ça. Ouais.
Oui, merci.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée. Au revoir. Et nous rejoignons Aymeric Sulman, garde-moniteur au Parc National des Cévennes, pour sa fameuse rubrique « Plantes et animaux des bois ».
Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Et peut-être qu'il va nous parler de sujets en lien avec la politique restauration de terres de montagne.
Oui, on va dire que j'ai essayé de trouver un sujet ou quelques plantes qui rappellent un peu cette politique RTM là, de restauration des terrains en montagne, et notamment en partant de ces deux botanistes et forestiers, Flau et Fabre, qui ont énormément œuvré pour reboiser l'Aigoual, mais pas que l'Aigoual, on l'a répété, parce qu'ils sont venus également, notamment Fabre est venu sur le Mont Lézère, participer à tous les travaux de restauration. Et ces deux botanistes ont aussi participé à la réalisation d'arboretum sur l'Aigoual. Qui dit arboretum dit aussi jardin botanique. Et souvent, ils ont, eux et ceux qui travaillent avec eux, ont apporté un certain nombre d'espèces venues d'ailleurs. Et ils ont fait des tentatives en fait d'introduction, de façon à voir comment ces plantes se comportaient sur l'Aigoual. Est-ce que des plantes montagnardes, des Pyrénées ou des Alpes parvenaient à s'adapter aux montagnes de l'Aigoual ? Est-ce qu'elles pouvaient apporter quelque chose ? Et il y a aujourd'hui très peu de restes en fait de ces plantes, si ce n'est à l'arboretum de la Foue et l'arboretum de l'Horte de Dieu, où on a encore un jardin botanique qui est visitable, où on voit des plantes qui ont été introduites à l'époque et qui sont encore là. Mais très peu se sont échappés, heureusement, on va dire. Ça n'a pas dénaturé, on va dire, la flore des Cévennes. On a des exemples en dehors de ces arboretums, de quelques plantes qui ont été introduites dans des tourbières, mais dans un esprit totalement expérimental. Seulement aujourd'hui, on a par exemple la tourbière du Trévezel, où on a deux plantes introduites qui se sont parfaitement adaptées à cette tourbière et qui en donnent une note complètement un peu bizarre pour un botaniste local. C'est deux plantes qu'on ne trouve pas du tout dans le coin. Et il y en a une qui est protégée au niveau national, mais qui a été introduite, et l'autre qui est plutôt typique de la Gascogne et qui n'a, on va dire, rien à faire là, mais elle est là. Il n'y a aucune opération qui a cherché à l'éliminer. Mais
quelles sont-elles ?
Alors, ça ne va rien vous dire. L'une s'appelle le piment royal, ça ressemble à un petit arbuste comme un petit saule, si on veut. Et l'autre, c'est l'andromède à feuilles de polium, qui est une toute petite plante à feuilles blanchâtres et grisâtres, et qui est protégée dans les tourbières de l'Est. C'est une plante protégée au niveau national. On a hérité de entre guillemets, un héritage lié à toute cette politique RTM et de tentatives d'adaptation d'un certain nombre de plantes venues d'ailleurs à nos massifs cévenols. Et pour rebondir un peu sur ces plantes, je voulais aussi vous parler de plantes qui ont été elles, importées de manière volontaire et en masse, sans être des arbres. On a évidemment planté beaucoup d'arbres en Cévennes et sur les Causses. On a notamment apporté le pin laricio, le Douglas, le pin noir d'Autriche, qui a été beaucoup planté sur les Causses. Et en parallèle au pin noir d'Autriche, on a aussi planté le Citis à grappes. Je ne sais pas si vous voyez cet arbuste qui fait des très longues grappes de fleurs jaunes. Des grappes de fleurs comme le robinier, mais jaune. C'est un arbuste qui est très toxique. Hein. Toutes les parties de cette plante sont toxiques. Il ne faut pas faire de beignets de fleurs de citrus, même si ça fait appétissant. C'est extrêmement toxique. Et cette plante a été plantée parce que c'est une papillonacée, une fabacée, ou une légumineuse. Il y a trois noms pour cette famille-là. Et c'est des plantes qui ont la même famille que le trèfle, la luzerne. On sait pourquoi on plante le trèfle et la luzerne dans les champs, c'est pour enrichir le sol en azote. Mmh. Et c'est pour les mêmes raisons que le Citis à grappes a été planté au milieu des pins, en grande masse. Et aujourd'hui, il s'est complètement naturalisé. Vous n'avez plus une forêt de pins noirs sur les Causses qui n'a pas quelques pieds de Citis à grappes. Et sa fonction était donc d'apporter un peu d'azote à ces sols qui étaient complètement lessivés pour permettre aux pins d'améliorer leur capacité à s'adapter au milieu, quoi. Voilà, alors dans le même idée que c'est toutes ces fabacées qui ont, ou légumineuses ou papillonacées qui servent à améliorer la richesse des sols en azote, on a tout simplement le genêt, qui elle est une plante bien locale. Et on ne pense pas forcément au fait que le genêt, là où il pousse, mine de rien, il apporte de l'azote au sol. Et c'est toujours bon de s'en rappeler pour se dire, voilà, un sol qui manque énormément d'azote, souvent naturellement, c'est des papillonacées qui viennent là et qui vont essayer d'apporter l'azote pour rééquilibrer. Et donc, je ne sais pas pour faire ni la guerre ni la paix avec le genêt, on sait bien que tout le monde veut s'en débarrasser, mais enfin, faut se rappeler que l'usage des genêts autrefois, il y en avait plein. On faisait des fagots pour le boulanger, on se chauffait aussi avec pour certains, on faisait de la litière, on faisait des toits en chaume.
Oui.
Ça, c'est assez exceptionnel. On n'en voit quasiment plus dans le Massif central. Oui. Et une utilisation très anecdotique, on a même utilisé la fibre de certains genêts, dont le genêt à balai. En dehors de faire des balais, évidemment.
Pourquoi faire ?
Pour faire des tissus. Ah, très grossier, style toile de jute.
Ouais, ça devait pas être très doux comme.
Non, c'est très grossier. Non, non, on fait pas des couvertures.
Doudou, non,
pas des doudounes. Voilà, ça, je trouve que c'est important. Enfin, le genêt, après, tout le monde en connaît les usages. On a deux genêts chez nous, le grand genêt vert à balai, puis le genêt purgatif. Purgatif parce qu'il a des propriétés qui sont très, très purgatives. On dit hémétocathartique pour ceux qui veulent utiliser des mots savants. Et du coup, je suis allé chercher ce que ça veut dire, hémétocathartique. Bon, en fait, ça accélère le transit, mais des deux côtés. C'est extrêmement dangereux, ces plantes hémétocathartiques. Et dans les genêts, il y a notamment la scoparine qui a cette propriété-là, et il y a la spartéine qui sont deux molécules la spartéine est extrêmement narcotique. Donc si vous abusez d'infusion de genêts, ce que je vous déconseille complètement, ça peut entraîner la mort. C'est vraiment des trucs très dangereux. Cependant, il y a une observation qui a été faite par beaucoup de bergers qui constatent qu'en menant leurs troupeaux à l'endroit où il y avait des genêts, notamment les moutons qui consomment volontiers le genêt, hein, sans implication grave s'ils ne sont pas obligés de manger que ça. Donc s'ils mangent un peu de genêt, puis d'autres de la ronce, quelques feuilles à droite à gauche, notamment en hiver, ils aiment bien ça, et bien ça a une propriété anticoagulante dans leur sang, et ça peut être très utile en cas de morsure de vipère. Et ils ont observé, certains l'observent, que les troupeaux qui mangeaient régulièrement du genêt étaient moins sujets aux complications que peut entraîner la morsure d'une vipère, ce qui n'est pas rare finalement en été, de voir une brebis se faire mordre le museau par une vipère. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu pour réhabiliter le genêt, qui a des usages et des intérêts, même pour les bergers. Voilà. Pour les petites chroniques.
Mais merci beaucoup, Aymeric.
Et cette émission touche à sa fin. Et on croit savoir que, Monsieur Sylvain, tu as une petite annonce à faire.
Oui, j'ai un petit message à tous les propriétaires forestiers qui nous écoutent. Un petit rappel que le 4 et 5 octobre prochain, ils peuvent s'inscrire au Sylvo Trophée. C'est un concours qui récompense une gestion la plus favorable à la nature tout en étant productive. C'est-à-dire, peut concourir à ce concours tout propriétaire qui possède un plan de gestion de sa forêt et qui a une parcelle avec une coupe qui a moins de 10 ans. Ça permet en fait au jury qui est composé à la fois d'un jury qui va juger entre guillemets le côté implication écologique de la forêt, et le deuxième juré il va juger tout ce qui est accueil du public. Et le troisième, évidemment, le côté productif, tout ce qui concerne la gestion de cette forêt d'un point de vue production de bois. Donc c'est le meilleur équilibre entre ces trois aspects-là qui sera récompensé.
Et comment on fait du coup pour s'inscrire ?
Eh bien, on tape tout simplement Sylvo Trophée plus Parc National des Cévennes sur Internet. Vous allez trouver les liens d'inscription. Et le plus tôt possible sera le mieux pour s'inscrire, parce qu'il y a des visites préalables de mes collègues pour un petit peu départager. Parce que le jour les deux jours qui sont consacrés aux jurés, on a le temps de visiter que quatre parcelles. On passe en moyenne 1h30 à 2h sur les forêts, plus... une heure de débriefing avec le propriétaire pour discuter de sa forêt. Donc ça demande en fait une demi-journée par forêt.
Parce que clair, tu fais partie du jury.
C'est ça, moi je participe pour l'aspect botanique, écologique et tout ça, voir comment la forêt prend bien en compte les enjeux écologiques. Et c'est toujours très intéressant les discussions qu'on a.
Et les propriétaires pour avoir observé aussi les deux précédentes éditions, ils sont contents d'avoir les regards extérieurs d'experts, et puis aussi d'entendre ce qui s'est vu dans d'autres forêts pour partager.
Oui, et puis dans le contexte un peu de réchauffement climatique où on se dit c'est la forêt la meilleure arme pour lutter contre le réchauffement, il y a vraiment un enjeu à chercher le bon équilibre entre production de bois et puis conservation des comment on appelle ça,
les fonctions
de la forêt, note pas que écologique, les fonctions aussi de maintien de l'eau dans les sols, de maintien de la fertilité des sols, de maintien tout simplement du sol en place,
comme on vient de voir
avec le RTM. Donc n'hésitez pas à proposer votre candidature.
C'est bien noté. Merci Émeric. Merci Virginie.
Merci Margot. Merci
Émeric. Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Palabre.
En forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM. 36.